Mes très chers amis, toutes mes méditations incitent à la réflexion. Je désire en effet que l'on puisse enfin découvrir et affirmer que la foi et la raison ne vont pas l'une sans l'autre. Pour des gens vraiment loyaux, sans la raison, nous n'aurions pas la foi. Et sans la foi, notre raison s'arrêterait au visible, au sensible. Alors toute morale disparaîtrait et les convictions religieuses ne pourraient plus exister. Le péché, c'est-à-dire le refus de Dieu, n'existerait plus. Alors, dans ces conditions, pourquoi le mal et pourquoi la souffrance? Est-ce pour éliminer tout cela que nos contemporains sont de plus en plus tentés par le transhumanisme? Le transhumanisme, qu'est-ce que c'est? Ce mot « transhumanisme » est un terme récent, apparu vers 1957. Il signifiait alors « amélioration humaine ». Puis, dans les années 1980, certains futurologues américains ont commencé à structurer ce mot et le mouvement transhumaniste est apparu. Les penseurs transhumanistes prédisaient alors que les êtres humains pourraient être capables de se transformer en êtres dotés de capacités telles qu'ils mériteraient l'étiquette de post-humain. Puis, dans les années 1990, le transhumanisme fut défini par Max Mohr. Ainsi, selon lui, le transhumanisme, c'est la promotion de l'amélioration de la condition humaine à travers des technologies d'amélioration de la vie ayant pour but l'élimination du vieillissement et l'augmentation des capacités intellectuelles, physiques ou psychologiques. C'est aussi pour Max Mohr l'étude des bénéfices, des dangers et de l'éthique du développement et de la mise en œuvre de ces technologies. Je dois ajouter ici que Max Mohr, de son vrai nom Max O'Connor, est un philosophe né en janvier 1964 qui examine les décisions avancées sur les technologies émergentes, ainsi que sur l'impact des technologies nouvelles sur les entreprises, donc sur ce que les individus continuent de faire en dépit des grands changements que l'on constate dans l'évolution des civilisations et dans le temps. Pour aller plus loin, ajoutons que Max Mohr explique dans son manifeste transhumaniste que le mouvement repose sur la conviction qu'une perfectibilité illimitée de l'espèce humaine est à la fois possible et souhaitable. Je préfère citer des phrases de Max Mohr car ces textes très significatifs sont encore peu connus chez nous. Ainsi, Max Mohr écrit: comme les humanistes, les transhumanistes privilégient la raison, le progrès et les valeurs centrées sur notre bien-être plutôt que sur une autorité religieuse externe. Les transhumanistes étendent l'humanisme en mettant en question les limites humaines par les moyens de la science et de la technologie, combinés avec la pensée critique et créative. Nous mettons en question le caractère inévitable de la vieillesse et de la mort, nous cherchons à améliorer progressivement nos capacités intellectuelles et physiques, ainsi qu'à nous développer émotionnellement. Nous voyons l'humanité comme une phase de transition dans le développement évolutionnaire de l'intelligence. Nous défendons l'usage de la science pour accélérer notre passage d'une condition humaine à une condition transhumaine ou post-humaine. Et Max Mohr d'ajouter, comme l'a dit le physicien Freeman Dyson, l'humanité me semble être un magnifique commencement, mais pas son dernier mot. En ce sens, on peut effectivement dire qu'il s'agit bien de révéler quelque chose de l'homme à lui-même, quelque chose qui est encore caché en lui, comme le papillon dans la chrysalide. De son côté, le philosophe Luc Ferry, né le 3 janvier 1951 et ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche du 7 mai 2002 au 30 mars 2004, distingue un transhumanisme qui veut lutter contre une loterie génétique injuste et le posthumanisme visant une inquiétante hybridation de l'homme et de la machine. Largement financé par Google, le transhumanisme a pris outre-Atlantique une importance considérable. Google a déjà investi des centaines de millions de dollars pour soutenir le transhumanisme. En fait, pour Google, il s'agit aussi de corriger volontairement, je cite, la loterie génétique qui distribue injustement les qualités naturelles et les maladies. Ainsi, il convient de passer du hasard aveugle au choix éclairé, afin de lutter contre les inégalités naturelles. Car personne aujourd'hui ne peut dire à quoi ressembleront, au siècle prochain, la technomédecine, les nanotechnologies, l'intelligence artificielle et la biochirurgie. Tout ce qui précède est assez abstrait et peut sembler, à des personnes peu informées, relativement peu inquiétant. Mais il y a beaucoup plus grave, car c'est déjà en cours de réalisation. On parle de plus en plus d'une hybridation homme-machine qui mobiliserait la robotique et l'intelligence artificielle. Il s'agirait notamment, grâce à des implants cérébraux, de connecter l'homme avec l'intelligence artificielle, comme avec les réseaux du web. Ainsi, on créerait une espèce nouvelle, réellement différente de la nôtre, des milliers de fois plus intelligente et plus puissante qu'elle. Ce serait une autre humanité, dont la mémoire, les émotions, l'intelligence, en bref la vie de l'esprit, pourraient être stockées sur des supports matériels d'un type nouveau, un peu comme on télécharge des fichiers sur une clé USB. Certains scientifiques et philosophes disent qu'il vaudrait mieux parler de post-humanisme, car ces machines, dotées d'une intelligence artificielle capable de conscience et d'émotion, devraient l'emporter sur les êtres biologiques. On pourrait alors stocker la mémoire et la conscience sur des machines. Mais ces machines, combien de temps vivront-elles ? Seront-elles éternelles ? Est-ce la mort de la mort ? Laurent Alexandre, né en 1960, chirurgien urologue français, s'intéressant au transhumanisme, estime qu'il s'agit d'un pur fantasme et que nous resterons éternellement des mortels, car nous finirions toujours par mourir dans un accident, un attentat ou en nous suicidant. Considérons un peu l'histoire des hommes. L'espérance de vie des Occidentaux a augmenté tout au long du XXe siècle. Elle était en France en moyenne de 45 ans en 1900. Elle est aujourd'hui de plus de 80 ans. Le but de Google serait de parvenir à un humain vivant par exemple 130 ans, puis, pourquoi pas, davantage encore au cours du prochain siècle. Telle est bien l'espérance qui anime le transhumanisme. Le journal Le Monde du 5 février 2016 évoque une expérience réalisée par une équipe de généticiens de l'Université de Rochester en 2008 et 2011. Des souris, modifiées génétiquement, ont vu leur espérance de vie augmenter de 30%. Ces souris sont également moins touchées par les pathologies cardiaques, rénales ou graisseuses typiques du vieillissement. Enfin, le déclenchement des cancers serait retardé. Je voudrais ajouter des faits très récents et très graves, rapidement présentés au cours des informations télévisées. Récemment, quelques drones à qui on a injecté une intelligence humaine sont commandés seulement par la pensée de leur animateur. De plus, j'ai entendu très récemment, toujours à la télévision, que l'on travaillait sur des robots pour en faire des êtres humains. Mais les scientifiques qui ont la charge de ce programme ne savent pas comment ces robots se conduiront ensuite, d'où une crainte, et s'ils devenaient les maîtres des humains. Enfin, une députée de l'Union européenne aurait demandé que les robots intelligents soient inscrits sur les états civils des pays où ils se trouveront, car pour elle, les robots intelligents, ce seront des hommes. Mes chers amis, j'avoue que ces informations sont très inquiétantes. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu l'intuition que c'était notre société d'aujourd'hui qui commettait le péché originel. Maintenant, je me dis que peut-être le péché dit originel doit se reproduire plusieurs fois. Dans ces conditions, cela expliquerait pourquoi Jésus a tant pleuré, même pleuré du sang à Gethsémani. Oui, retrouvons Jésus à Gethsémani. Jésus voit et constate toutes nos déchéances. Et Jésus souffre dans son cœur une agonie extrême. Pourtant, il vient de donner la preuve la plus grande de son amour pour nous, hommes de tous les temps. Son Eucharistie, afin de pouvoir rester avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais à Gethsémani, pendant son agonie, il ne voit dans nos sociétés qui ont rejeté Dieu que trahison, reniement, corruption, sexe, haine et scandale. Et Jésus vit intensément la phrase qu'il avait prononcée bien avant, « Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre avec son corps humain ressuscité, trouvera-t-il encore un peu de foi sur la terre ?» Incontestablement, notre cœur se brise avec celui de Jésus quand nous voyons ce qui se passe dans notre monde, quand nous entendons les blasphèmes, les inepties, les cris de haine, les corruptions épouvantables et l'athéisme qui se répand partout. Et nous entendons aussi les appels de douleur des pauvres qui ont faim, faim de pain, de spiritualité et surtout d'amour. Avec Jésus, dans son cœur, nous pleurons aussi, et nos larmes sont les siennes, les larmes d'une souffrance atroce, car douleur de Dieu même. Cela nous dépasse infiniment. Que pouvons-nous faire? Les hommes ont bafoué les commandements de Dieu. Pourquoi? Notre monde, par ses enseignements, scandalise les petits-enfants et souille les cœurs purs. Les hommes sèment la haine quand Dieu leur demande l'amour. Pourquoi? On oublie la miséricorde de Dieu et l'on ne sait plus pardonner. La justice humaine est souvent devenue protection des coupables. Alors que Dieu a dit « Tu ne tueras pas », l'on multiplie les meurtres de toute nature, y compris des enfants sans défense. La morale naturelle, on l'inverse. Le vice est devenu le bien, et l'on en arrive de plus en plus souvent à condamner ceux qui écoutent Dieu. La conscience humaine n'est plus éduquée ou éduquée à l'envers. Notre monde a remplacé Dieu par des multitudes d'idoles. Et nombreux sont les hommes de notre monde qui sont malheureux, agressifs, violents, pleins de haine et d'imprécations. Atroce litanie, épouvantable litanie dont on ne voit pas la fin. La science moderne, nous devons maintenant nous en méfier, car par elle, l'humanité est conduite à de trop nombreux péchés. Les 4% de chrétiens catholiques pratiquants qui subsistent en France doivent prier beaucoup, beaucoup. Et nous tous, compte tenu naturellement de nos possibilités, nous devons recommencer à évangéliser comme Jésus l'a demandé à ses apôtres avant de partir vers le ciel. Et maintenant, allez, évangélisez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.